cours de philosophie du vivant par le père Marie-Dominique Philippe à Saint-Jodard le 7 janvier 1993.
Semestre précédent, avant Noël, on a fait quelques cours sur la philosophie de la matière, c'est-à-dire philosophie de la nature, qu'on a appelé cosmologie. J'aime pas beaucoup ce genre de terme, mais on comprend ce que ça veut dire. Le logos du cosmos. On a vu quelques problèmes. Et c'est important, la philosophie de la nature. C'est pas le fondement de la philosophie, hein, pas du tout. La philosophie commence par la philosophie humaine. Faut jamais l'oublier, selon l'ordre génétique. Et non pas du tout par la philosophie de la nature. C'est contraire à toute la perspective d'une philosophie réaliste. C'est la scolastique qui a dit ça. La scolastique décadente. En réalité, le problème se pose à partir de la philosophie humaine. Qu'est-ce qui est antérieur au facere? Qu'est-ce qui est premier dans notre connaissance spéculative? Et la connaissance spéculative n'est pas première génétiquement. Un enfant dans son berceau n'a pas l'intuition de l'être. Certains l'ont dit, alors c'est pour ça qu'il faut le dire, pour dire que c'est pas vrai. Tu vois, j'ai jamais vu un enfant qui avait l'intuition de l'être dans son berceau. Il regarde sa mère, qui n'est pas l'être. Heureusement pour lui. Il regarde son biberon. Qui est plus ceci que être, vous comprenez, pour lui. Il faut quand même être réaliste. Hein. On ne cesse de le dire, il ne s'agit pas de marcher sur la tête. Il faut essayer de comprendre les choses. Alors, quelques aspects importants de la philosophie de la nature. Je sais que c'est très difficile pour nous, parce qu'on est encombré de ce que représente la physique moderne, la chimie moderne, inorganique. On est encombré de tout ça. Et c'est normal, on vit notre époque, hein, c'est pas un reproche que je vous fais. C'est un fait. On avait tout cela. Pour Aristote, il y avait Platon qui avait encombré la philosophie des mathématiques. On est encombré des mathématiques aujourd'hui. Il faut regarder la chose comme elle est. Et c'est pas parce qu'on est encombré des mathématiques qu'il faut commencer par la critique des mathématiques. Comment voulez-vous faire la critique des mathématiques sans avoir une philosophie, une sagesse? Impossible. Alors on est voué à dire des bêtises. La critique des mathématiques ne peut se faire que dans une sagesse, que dans une vision de sagesse qui prouve que la vision de sagesse est indépendante de la vision mathématique et des sciences modernes qui dépendent des mathématiques. Il faut essayer de comprendre cela d'une façon très très nette pour ne pas cesser encombrer. Alors, puisque selon le programme, on commence la philosophie du vivant et que le cours de la philosophie de la nature n'est qu'ébauché, je demanderai au père Marie-Dominique de pouvoir continuer avec vous certains problèmes. D'abord, si vous avez des questions. Parce qu'il faut toujours poser les questions. Il ne faut pas rester encombré des questions. Et puis, traiter avec vous la question du temps et du lieu et du temps. C'est très important, ça. Ce qui a été transformé avec Kant par espace. L'espace. Le lieu est devenu l'espace. Et le temps est resté le temps. Et on a pu distinguer le temps philosophique réel et le temps scientifique du savant. a plus qu'un avant et un après. Ça, il faut le comprendre. Alors, c'est bon qu'il y ait un cours là-dessus. Je vous ai dit, à Fribourg, j'avais fait pendant toute une année cette question du temps avec un astronome. Toujours intéressant d'avoir le temps astronomique. Aujourd'hui, c'est le temps astronomique de l'évolution. C'est intéressant. Qu'est-ce que c'est qu'un astronome quand il parle de millions et des milliards d'années pour l'année ? Qu'est-ce que ça veut dire par rapport au temps ? Est-ce qu'on part dans l'imaginaire ? Ou est-ce qu'on est vraiment dans le temps de l'instant présent ? Et quand la Bible parle des générations, est-ce que c'est encore le temps ? C'est autre chose. Un mode symbolique. Il ne faut pas tomber dans le fondamentalisme étroit qui consiste à dire que la Bible va te donner l'âge du monde. Mais non, la Bible n'a pas comme but de nous donner l'âge du monde. La Bible a comme but de nous rappeler qu'on est fait pour la vision béatifique et pour l'éternité. C'est pas la même chose quand même. Mais la Bible parle de l'origine, en effet, d'Adam et Ève. Mais ne nous dit pas quand. Elle nous a pas donné la forme du crâne d'Adam et d'Ève. C'est pas dommage. On aurait aimé avoir la photographie. Vous l'avez retrouvée. Ah tiens, tu ressens Ève. Oh là là, c'est extraordinaire. C'est ta grand-mère, hein, c'est pas étonnant. La Bible parle un langage symbolique. Vous voyez, il y a deux extrêmes sur lesquels il ne faut pas tomber aujourd'hui. Le fondamentalisme et puis le scientisme. Et c'est pas commun, je comprends très bien que c'est pas commun du tout. Mais si on veut faire une philosophie réaliste, on doit toujours partir sur le chemin d'existence. Et demandez-vous, quel est le chemin d'existence d'un astronome ? Quand vous lui posez la question, vous voyez, il s'amuse. C'est pas étonnant, la mise entre parenthèses du chemin d'existence. Or, je ne peux pas parler du temps, si on dit du bon temps au plan philosophique, sans le chemin d'existence. Alors, nous allons donc commencer le cours de la philosophie du vivant. Alors, quelques petites remarques très intéressantes au point de vue historique. C'est très intéressant de voir ça. Quel est le fondateur de la philosophie du vivant ? Aristote. On a parlé du vivant bien avant Aristote. Mais quel est celui qui distingue une partie de la philosophie en disant c'est la philosophie du vivant? C'est Aristote. Pas Platon, pas le néoplatonisme. Mais peut-on, alors, question intéressante au point de vue critique, peut-on être néoplatonicien et distinguer la philosophie de la matière et la philosophie du vivant? Ou est-ce que la distinction de la philosophie de la matière et de la philosophie du vivant n'est-elle pas le signe d'une philosophie réaliste? C'est une question très intéressante, critique. Parce que ça montrerait que saint Thomas n'est pas un néoplatonicien, puisqu'il distingue la philosophie de la matière, la philosophie de la nature, de la philosophie du vivant. C'est pour ça que je pose la question. Et ça, c'est intéressant. C'est très intéressant à se poser la question. Posez-vous dans Plotin. Venez, dans Plotin, parce que Plotin est un néoplatonicien. Peut-on faire une philosophie du vivant indépendante, qui a sa structure propre, et qui n'a pas la même structure que la philosophie de la nature, et qui n'a pas la même structure que la philosophie première? Parce que c'est le propre du néoplatonisme de passer de l'un à l'autre en continuité. Alors ça, c'est des questions qui sont capitales quand on dit saint Thomas est néoplatonicien. Mais qu'est-ce que ça veut dire dans la pensée de ceux qui disent ça? Alors on leur fait passer un petit examen sur qu'est-ce que c'est que le néoplatonisme. Une fois que vous saurez ce que c'est que le néoplatonisme, vous pourrez dire que saint Thomas est néoplatonicien. Mais pas avant. Qu'est-ce que c'est que l'aristotélisme, la philosophie réaliste? Qu'est-ce que c'est que le néoplatonisme? Pour Aristote, la philosophie du vivant, le périple sujet de l'âme. Autrement dit, Aristote est le second grand philosophe grec qui veut parler philosophiquement de l'âme. Et après Aristote, le stoïcisme ne parle plus de l'âme et n'accepte plus la distinction de l'âme et du corps. Aristote, à la suite de Platon, considère que le problème de l'âme est capital. Et à la différence de Platon, parce qu'il y a une très grande différence entre Aristote et Platon sur l'âme, c'est que pour Aristote, je n'ai aucune expérience de mon âme séparée. Tandis que pour Platon, il y a la réminiscence. J'ai été un pur contemplatif, faisant partie de la cohorte des dieux. C'est un petit page. Pour Aristote, non, j'ai jamais été un contemplatif avant d'être lié à mon corps, et je ne suis pas un petit page de la cohorte des dieux. Non, non. Mais je ne suis pas non plus un animal. J'ai quelque chose de spirituel et quelque chose de divin en moi. Le nous, l'intelligence, et l'acte volontaire, et l'amour d'amitié, et la possibilité de la contemplation. Alors, pour Aristote, la philosophie du vivant fait partie de la philosophie de la nature. Alors, c'est une question grave qu'il faut se poser. Est-ce que nous pouvons garder cette position d'Aristote ou pas? Est-ce que pour Aristote, c'est net, dans la philosophie de la nature, il y a le péripsychèse à cause du corps? Pas à cause de l'âme, mais à cause du corps. Alors, pouvons-nous maintenir cela? Disons, philosophie de la nature implique philosophie de l'âme. Ou devons-nous aller plus loin qu'Aristote et montrer que la philosophie du vivant a un statut particulier au plan philosophique? Ce que je crois. C'est intéressant comme problème, c'est un problème critique. C'est un problème de distinction des sciences. Donc vous ne pouvez le faire qu'après avoir déjà pioché dans la philosophie du vivant. Mais je le pose quand même tout de suite comme problème, parce que ce problème historiquement s'est posé. Parce que pour Aristote, la philosophie, le péripsychèse fait partie de la philosophie de la nature. Je comprends à cause du corps, mais le corps est matériel. Est-ce que le corps me donne une connaissance spécifique du vivant? Non. Alors, on verra ça progressivement. Je pose la philosophie du vivant, je vous l'ai dit, philosophiquement, à partir de l'amitié et de la mort. Aujourd'hui, dans notre monde d'aujourd'hui, c'est très important de parler de la mort. Parce que l'existentialisme a mis la mort très en lumière. L'homme est voué à la mort. Hein? Vous voyez Sartre, sur tout ce que dit Sartre sur la mort, c'est intéressant. C'est des philosophes de la mort. Et là, ils sont à l'aise. Sauf quand c'est leur propre mort. Et la mort des autres, ça va. On peut spéculer dessus. Et vous voyez bien comment se pose le problème. L'amour d'amitié fait que je ne veux pas que mon ami meure. Je crois que c'est élémentaire. Un ami qui veut que son ami meure, je crois qu'il tue l'amour d'amitié. Donc c'est plus l'amour d'amitié. C'est parce que cet amour d'amitié en réalité n'était pas un amour d'amitié, et c'était un amour passionnel. Et dans l'amour passionnel, quand vous êtes déçu de quelqu'un qui vraiment vous donnait un plaisir sensible, charnel, quand il ne vous le donne plus, vous passez de l'amour à la haine. C'est ce qu'il y a de plus terrible. Parce que ce n'est pas un véritable amour, ça reste un amour captatif. J'aime l'autre dans la mesure où il me donne du plaisir. Quand vous aimez l'autre dans la mesure où il vous donne du plaisir, vous ne l'aimez pas vraiment l'autre, c'est vous aimez. Et vous prenez l'autre pour vous, vous le captez pour vous. Tandis que le véritable amour est extatique. C'est pour ça que l'amour d'amitié ne peut pas vouloir la mort de l'ami. Tandis que l'amour passionnel peut le vouloir. Oh oui. C'est les drames qu'on voit toujours dans les romans. Toujours. C'est les drames qu'on voit partout et qui conduisent des hommes à la prison. Parce que la haine conduit à la mort. On ne peut plus supporter quelqu'un qu'on a aimé, qui nous a déçus. On ne peut plus le supporter. Donc on a de la haine pour lui. Et on fait tout ce qu'on peut pour le faire tomber. Et s'il ne tombe pas par lui-même, on fait un piège. Et tombe dedans. C'est extraordinaire comme, au fond, la haine, cet amour inversé, est une chose terrible. Dans l'amour d'amitié, je ne veux pas que l'ami meure. Or, l'ami peut mourir et l'ami meurt. Je prends le cas qui peut exister, qu'on a tous connu, peut-être pas vous encore, et que vous connaîtrez, que des amis meurent avant vous. Et ça fait un très gros choc, ça. La première fois où on connaît, où on rencontre la mort, tant que ce n'est pas un ami, quelqu'un qu'on aime, qui meurt, on ne sait pas ce que c'est que la mort. l'aspect chrétien par le point de vue de la résurrection dira qu'il n'est pas entièrement équivoque. Ça, c'est chrétien. Mais pour le philosophe, le cadavre, c'est le cadavre, il n'est plus. Et c'est vrai qu'il y a quelque chose de terrible, le passage du vivant, même s'il râle, même s'il n'en peut plus, il vit encore. Il ne répond pas. Il n'est plus de ce monde. C'est ce qu'on dit. Il n'est plus de ce monde. Il dépasse. La mort touche directement le point de vue du vivant. Et fait cette rupture. Ça implique une rupture verticale, absolue, puisque je ne peux pas reprendre la mort. Si je pouvais faire l'exercice de la mort, exercer à la mort n'aurait plus cet absolu. Le seul absolu dans le monde sensible, c'est la mort. C'est le seul absolu. Je ne peux pas reprendre. Tout le reste, on peut le reprendre. Tandis qu'on ne peut pas le reprendre. Et c'est ce qui fait que la mort pose un problème au plan philosophique. Il y a un problème terrible. Puisque la mort n'est pas dominé par l'amour d'amitié. Si la mort n'est pas dominée par l'amour d'amitié, la mort relativise l'amour d'amitié. Et c'est vrai. La mort relativise l'amour d'amitié. Comme la matière relativise l'œuvre d'art. Relativise l'efficacité de l'homme. L'efficacité de l'homme est relativisée par la matière étant ce qui est antérieur au travail de l'homme. Il y a quelque chose de plus radical que le travail de l'homme. Et là, le marxisme montre sa faillite. La praxis n'est pas première. Il y a quelque chose de plus radical que la praxis, la matière. Il y a quelque chose de plus radical que l'amour d'amitié, la mort. C'est très important de comprendre ça dans notre monde d'aujourd'hui. Vous voyez, des choses qu'Aristote n'a pas du tout traitées. Pour lui, la mort est traitée dans le théâtre. C'est du reste très beau. C'est très astucieux. Nous montrer que la mort est, reste chose humaine. Par les liens d'amitié. Et tout le théâtre grec est basé sur la mort. Parce que c'est tragique. Le vrai drame, c'est la mort. Tout le reste peut se reprendre. C'est que là, c'est cette drame complet. Vous ne pouvez pas reprendre ça. Donc, c'est traité du côté artistique, la mort. Quand on dit qu'Aristote ne connaît pas ce que c'est que la mort, c'est faux. Regardez le théâtre. Et regardez ce qu'Aristote dit dans la Poétique sur le théâtre. Le théâtre, c'est l'œuvre artistique, donc je le traite dans l'œuvre artistique. Je ne le traite pas dans le traité du Péripsuchès, puisqu'on parle de l'âme, et que l'âme ne meurt pas. Mais la place de la mort aujourd'hui est très importante à bien situer. Si donc la mort relativise le vivant, relativise l'amour d'amitié, et l'amour d'amitié me montre le vivant dans ce qu'il a de plus vivant, de plus proche de moi, il faut donc, à cause de la mort, et pour savoir ce qu'est la mort, regardez ce que c'est que la vie. Alors, qu'est-ce que c'est que la vie? La mort étant la rupture de la vie, étant la négation de la vie. La mort étant ce qui supprime le vivant. Qu'est-ce que c'est que le vivant? Il y a des quantités de vivant. cependant un vivant dont j'ai une expérience unique. C'est moi. Au fond, je projette mon expérience de vie sur l'âne, sur le serpent. Parce que je ne sais pas du tout comment réagit un serpent. Alors j'ai dit, le serpent vous mord avec son venin quand il a peur. Parce que vous feriez la même chose. Si vous aviez la possibilité de cracher le venin sur votre voisin, vous le feriez dès que vous auriez peur de lui. C'est une arme. Vous projetez sur les autres animaux ce que votre expérience vitale. Vous n'avez aucune expérience de la vie d'un chien. Alors quand il y a des larmes, s'il pleure, ce qu'il m'aime, ça vous console. Il n'y a que cet animal qui me comprend. Tous les autres ne me comprennent pas du tout. Et lui, regardez cette fidélité. Il y a 2 ans que je ne l'ai pas vu, il reste là. Et quand j'arrive, il pleure. Mais qu'est-ce que ça veut dire? Qu'est-ce que ça veut dire, ce chien qui pleure? Mais il réalise, ce chien qui pleure, qu'est-ce que ça veut dire? Il pleure parce qu'il vous aime ou parce qu'il aime le morceau de sucre que vous lui donnez? Faites le discernement. Parce que s'il aime le morceau de sucre que vous lui donnez, c'est pas un amour, c'est un amour captatif, c'est tout. Il vous aime parce que vous êtes source du morceau de sucre. C'est pas digne de vous. Il y a un vivant et un seul vivant dont j'ai une expérience unique. C'est moi-même, ma vie. Oui, je crois ça très très important de souligner que le Péripsuchès d'Aristote, c'est le traité du vivant, c'est-à-dire de l'homme vivant. La philosophie part de l'expérience. Or, j'ai une expérience originale du vivant. Et cette expérience originale du vivant, c'est moi qui l'ai. Je pourrais dire que dans la vie végétative, j'ai une certaine expérience du vivant qui mange. C'est vrai. Seul le vivant mange. Seul le vivant se repose. Il dort. Seul le vivant. Tant qu'il dort, il est vivant. Une certaine expérience de la vie, sensible, oui, d'une certaine manière. Mais ce que je peux dire et affirmer, c'est que moi-même, je suis seul à expérimenter d'une manière unique ce qu'est la vie. Et c'est pour ça que je vois tout de suite que lorsqu'il s'agit de la philosophie du vivant, il y a quelque chose de très particulier. C'est que l'expérience interne joue un rôle capital et premier par rapport à l'expérience externe. Celui qui me regarde dormant ne sait pas ce que c'est que mon sommeil. Pour lui dire, tu as très bien dormi de telle heure à telle heure. Non, j'ai eu des cauchemars. On ne l'a pas vu. Oui. J'ai eu des cauchemars. J'étais très agité. On l'a pas vu, on l'a pas senti. Tu n'étais pas en moi. La vie se saisit de l'intérieur. C'est du reste pour cela que je me sers pas d'instruments très perfectionnés qui me donneraient des mesures étonnantes. Sauvegarder l'originalité de cette expérience. m'expérimente pleurant, je m'expérimente riant. C'est une expérience particulière du vivant. Et cette expérience particulière du vivant est quelque chose de très très important. Mais cette expérience n'est pas l'introspection. Pourquoi ? Parce que cette expérience du vivant est toujours accompagnée de ceci et un vivant. La donnée objective du vivant. Et c'est vrai que ce n'est que l'expérience interne qui permet de comprendre le caractère propre de cette expérience du vivant. Cette expérience vitale. Il y aura donc, au point de vue méthode philosophique, quelque chose de nouveau. Ce n'est pas la méthode de la connaissance de la matière qui me permet de connaître le vivant. Et ce point-là, Aristote l'a connu, mais l'a pas mis suffisamment en lumière. Nous pouvons le mettre en lumière beaucoup plus à cause de la méthode introspective qui s'est développée depuis et qui nous a écartés du réalisme en nous mettant de plus en plus dans un subjectivisme. Et c'est pour ça que la philosophie du vivant a cet intérêt très grand, c'est qu'il est la plaque tournante du réalisme et du subjectivisme. Et donc vous ne pouvez répondre au subjectivisme moderne qu'en voyant la philosophie du vivant. Réponse adéquate. Il n'y a pas d'autre réponse adéquate que celle de la philosophie du vivant. Vous voyez, pour un hegelianisme poussé à l'extrême, c'est la philosophie du vivant qui peut donner la réponse adéquate. En montrant que toute opération vitale, la plus subjective qui soit, est toujours dépendante d'une réalité objective. Mais cette dépendance n'est pas toujours la même. Et ça, nous verrons. Mais il y a une dépendance. De sorte que la méthode de la philosophie du vivant n'est pas la subjectivité, n'est pas l'introspection à l'état pur. Mais je m'en sers. Et je ne peux pas la nier. Je m'en sers au moins pour avoir conscience plénière de mon acte vital et de pouvoir le décrire. Si je n'avais pas conscience de mon acte vital de vous parler, je ne pourrais pas décrire ce que c'est que la parole. Si je n'avais pas conscience de ce que c'est que la mendication, je ne pourrais pas vous décrire ce que c'est que la mendication. Il y a des actes comme ça qu'on ne saisit que de l'intérieur, et qu'on ne peut saisir que de l'intérieur. Alors, une fois que j'ai bien posé ces questions-là, parce que ça c'est pour déblayer un peu le terrain, à partir de quelle expérience commence la philosophie du vivant ? Je m'aperçois d'abord que le vivant a de multiples expériences vitales. Le vivant étant l'homme, depuis ma matinée où j'ai commencé à m'éveiller, c'était assez pénible. Je dormais très bien ce matin. C'était assez pénible de me réveiller au réveil. Si je m'étais laissé m'écouter moi-même, je me serais levé un peu plus tard. Là, j'ai violenté la nature. Et quand je violente ma nature, c'est jamais très agréable. Et quand cette expérience se répète indéfiniment, on arrive à avoir une certaine haine vis-à-vis de l'instrument qui me réveille tous les matins. règlement qui ne tient pas compte que les hommes d'aujourd'hui se couchent tard et se lèvent tard. Alors pourquoi on fait ça? Alors il faut des explications n'en plus finir pour expliquer qu'il est quand même pas mauvais de se lever, et ainsi de suite. Bon, très bien. Et comme l'expérience interne étant plus forte que tous les raisonnements qu'on peut donner, on en revient tout le temps à ça en disant il y a les hommes du soir et les hommes du matin. Je suis un homme du soir, moi. Mon intelligence ne se réveille qu'à partir de 11h. À ce moment-là, mais si c'est ça, il faut que le matin je me lève un peu plus tard, parce qu'autrement, je n'ai pas mon compte. Je n'ai pas mon compte. Hein, non. Son compte, c'est-à-dire le compte du repos. J'ai l'expérience première de la vie. Je me réveille. Et je suis seul à avoir cette expérience. Celui qui m'a réveillé est une brute. Il n'a pas respecté mon sommeil. J'avais bien dit le soir de ne pas le respecter, mais quand il m'a réveillé, j'ai trouvé que c'était vraiment de sa part une indiscrétion formidable de ne pas respecter le sommeil, qui est une œuvre naturelle. Je fais l'expérience du réveil tous les matins. Je fais l'expérience de celui qui dort. L'expérience du réveil. Et ainsi de suite. Prenez toutes les expériences de votre journée. Elles sont nombreuses. Jusqu'à l'expérience du soir, quand vous luttez contre le sommeil. C'est quand même important de comprendre cette diversité d'expériences. Si je réfléchis, comment se fait-il cette très grande diversité d'expériences? Je mange, je parle, je dors. Quelqu'un qui me regarde. Cette diversité, c'est toujours moi. Il faut donc poser quelque chose d'unique à travers cette diversité. Alors je peux à ce moment-là avoir la réminiscence de ce que représente l'induction de la nature, matière et forme. Ici, je n'induis pas la nature, matière et forme. J'induis un principe d'unité de toute cette diversité d'opérations immanentes. C'est l'immanence de la vie qui s'impose à moi. Et dans cette immanence, il y a une très grande diversité. Et cette immanence de la vie montre que pour moi, toutes ces opérations vitales relèvent d'un même principe. Que les traditions religieuses appellent l'âme. Et premièrement, induction de l'âme. Et comment se fait cette induction? C'est intéressant puisque c'est l'induction la plus typique. L'induction de la nature est très grossière. L'induction métaphysique de Lousia est pas commode. L'induction de l'âme, oh alors là, c'est merveilleux. C'est là où je comprends ce que c'est que l'induction. Cette induction de l'âme, c'est saisir ce principe, cette source de toutes mes activités vitales qui viennent de moi. Je mange, j'assimile en mangeant. Je regarde. Je veux regarder. J'assimile en regardant. Je me mémorise ce que hier j'ai fait. Parce que hier, la tartine de pain était plus grosse que ce matin. tiens, ça va pas. Qu'est-ce qu'il y a qui va pas? Je compare. Et comparer, c'est tout de suite l'intelligence. Je prie. C'est encore une activité humaine. Puis je rencontre un frère. Je dis comme je suis heureux de te voir. Je t'aime. Je fais toute une série d'opérations. C'est toujours moi. Donc il y a une source